de ce séminaire avec, pour commencer, la présentation par Pauline David d'un premier point qui fait référence, bien évidemment, au travail qu'elle a entamé en cette première année de thèse.
Voilà. En fait, ce questionnement sur la forme scolaire, il est né aussi d'un programme de recherche qui a commencé l'année dernière sur les écoles de production, donc c'est ce qui a été rappelé tout à l'heure. Ces écoles de production, elles existent dans plusieurs pays d'Europe sous une forme qui se veut commune, mais bon, on pourra en parler, et qui se veut aussi différente de la forme scolaire traditionnelle. Donc c'est une fondation qui est conçue en trois temps, pour vous expliquer d'abord un peu comment fonctionne le modèle français, comment il s'est construit, ensuite comment à l'échelle de l'Europe on retrouve des modes d'école de production, et enfin une analyse un peu de comment ces écoles de production françaises traitent un peu de la forme scolaire ou s'en éloignent. Donc modèle français, histoire et structuration. C'est un modèle en fait qui a été créé en 1882 par un prêtre dans la veine en fait du catholicisme social. Le père Boisard cherchait en fait une manière d'accompagner les jeunes un peu dans la veine de Don Bosco d'ailleurs, dont pour lequel il avait une certaine admiration. Et il a cherché à trouver les moyens de créer ça sur Lyon. Il a développé du coup ce modèle qui s'appelle aujourd'hui faire pour apprendre. Avec cette idée de protéger la jeunesse de la mauvaise influence du monde ouvrier, on peut penser facilement à Willis, et puis une recherche un peu d'un modèle qui serait différent à son idée. Bon, finalement, on en retrouve des similitudes dans d'autres approches à peu près à la même époque, mais et voilà, il avait cette idée un peu de. Alors, il y a assez peu de littérature qui documente son travail. Il y a un article de Sillet. Qui en parle un peu, et puis il y a une hagiographie qui retrace sa vie. Alors bon, on a certains éléments, mais ça reste. Mais une des choses qui ont été documentées, c'est les échecs en fait de cette première tentative, avec finalement un modèle qui n'insère pas tellement les jeunes gens. Donc en fait, il s'adressait à des jeunes du monde ouvrier qui n'avaient pas de qualification, qui ne trouvaient pas leur place dans la société, pour éviter cette jeunesse dangereuse. Et au final, on s'aperçoit que sur les toutes premières années, les tentatives, en fait, ne font pas état d'un succès. Il y a très peu de jeunes qui vont au bout de cette formation, très peu qui s'insèrent derrière. Et la formation en elle-même, au début, si je me rappelle bien, c'est de la sous-traitance pour une usine de semelles de chaussures, en fait. Alors, les écoles de production aujourd'hui, elles existent toujours. Elles se sont un petit peu développées. Aujourd'hui en France on en compte 26 avec un financement privé qui vient d'arriver et qui vise à développer jusqu'à 100 en fait dans les 10 ans à venir, et ces écoles elles se sont organisées. Alors aujourd'hui en fait elles se présentent sur un accueil des jeunes de 15 à 25 ans dans des secteurs qui vont de l'industrie, du bois, du numérique et puis dans les secteurs du service aussi, avec ce mot d'ordre un peu faire pour apprendre, qui s'oriente donc vers une pédagogie très active. C'est encadré par un modèle de fonctionnement assez singulier. Les écoles, en fait, s'autofinancent en partie par la production de biens ou de services qui sont produits en réponse à des commandes de clients. Ça peut être des particuliers comme des professionnels. Ces commandes vont être réalisées par les jeunes, encadrées par des formateurs qu'on appelle dans leur jargon des maîtres professionnels. Ce sont en fait d'anciens professionnels qui sont reconnus pour leur qualité professionnelle, justement, et qui sont intéressés par l'éducation. Ils n'ont pas de formation éducative ou pour former en tant que tel. Certains demandent des financements de formation après être arrivés dans l'école ou ont un certificat, mais c'est assez rare. La plupart découvrent en fait l'enseignement en arrivant dans les établissements. Sur la gestion en termes de temps, donc ce sont des écoles qui visent en fait à former et à certifier via le CAP, voire le bac pro pour certains, et la formation se passe à deux tiers du temps en atelier, en termes de pratique, et puis un tiers en classe avec toute la partie technique, en fait, théorique, et puis les matières fondamentales. En gros, en général, c'est français, maths, ça s'arrête à peu près là. Parfois, on va jusqu'à histoire géo, un peu d'anglais, mais c'est quand même très limité. Certains aussi préparent d'autres diplômes que le CAP ou le Bac Pro, c'est-à-dire plutôt des qualifications professionnelles, à savoir des titres professionnels, des CQP, et puis, oui, voilà. Donc ces écoles se sont structurées d'abord d'une manière régionale, puisqu'elles sont apparues majoritairement dans la région lyonnaise à l'origine. Et puis, peu à peu, elles ont commencé à émerger un peu partout en France. Et on le voit là sur la petite carte, bon, le rendu n'est pas très bon, mais ça s'est développé aussi dans le nord de la France et plus récemment dans l'ouest, avec un développement accompagné sur la région Pays de Loire et actuellement aussi un développement sur la région Normandie. Cette volonté d'expansion, elle est donc structurée et accompagnée par une fédération nationale qui est née en fait dans les années 2000, donc s'appelle la FNEP, la Fédération Nationale des Écoles de Production. Cette fédération, en fait, elle a un rôle de labellisation. C'est elle qui accompagne les porteurs de projets et qui labellise l'école comme étant réellement une école de production. C'est un agrément qui est valable, je crois, pour 2 ou 3 ans et ensuite il doit être renouvelé avec une visite d'experts qui valident le modèle. Pour revenir aussi sur la dimension privée et catholique originelle de ces écoles, il faut savoir que l'encadrement au début était réalisé par des prêtres, c'était une congrégation, et puis peu à peu ils ont laissé la place en fait à des laïcs. Aujourd'hui c'est la totalité des directions sont assurées par des laïcs à l'heure actuelle. On observe cependant des traces de cette création du catholicisme social, mais c'est absolument pas revendiqué, voire même c'est l'inverse, par la Fédération nationale. Donc, ça, c'était pour les écoles de production françaises. Il faut savoir que ces écoles de production françaises, elles se sont associées à un mouvement européen qui visait, en fait, à structurer un réseau des écoles de production européennes. Ils ont donc une organisation qui s'appelle IPSO, qui regroupe 6 pays, donc Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande, France et Suède, qui vise en fait à fédérer des unités assez éparses et finalement qui ont des modèles assez variés, on le verra juste après. Leur but, c'est d'obtenir une reconnaissance de leurs différents états nationaux, c'est-à-dire avoir une place à égalité avec les autres voies de formation professionnelle. Ils ont notamment développé dans un projet Erasmus+, une espèce de documentation des différents modes de suivi et de documentation de l'acquisition des compétences, des qualités professionnelles, etc. C'est aussi une manière de consolider et de créer ce réseau, puisque à l'origine, il n'y a pas de relation entre ces différentes écoles. Ça n'a pas essaimé d'un point unique vers d'autres. Il y a une influence du modèle danois dans les pays germanophones, mais en France, par exemple, la création est plus ancienne que dans les autres pays, et pourtant elle s'est faite en solitaire, elle n'a pas eu de contact avec les autres. Vous voyez, c'est vraiment une construction européenne qui s'est faite a posteriori. Si on regarde un peu les différentes informations qui sont documentées, alors je vois que c'est trop petit, qui sont documentées par le projet Paving the Way, sur les différents pays, ce qu'on apprend, bon, je vais lire pour que ce soit plus lisible. Si on regarde par exemple la production réelle pour client, la part que ça a dans le budget des écoles, c'est extrêmement variable. Ce qui fait qu'on part par exemple au Danemark, ça peut être 5 à 10% du budget de l'école, c'est la production. En Allemagne, ça varie entre 5 et 25%. En France, l'objectif c'est 30%, mais vous avez des écoles qui peuvent monter jusqu'à 40 voire 70% de leur budget qui est en fait la production réelle. Vous voyez, ça impacte beaucoup ensuite derrière l'accompagnement pédagogique et les activités qui sont mises en place. Ensuite, dans cette production, il faut savoir que les buts visés sont différents. En France, par exemple, on fait de la production pour former et ensuite pour certifier. Mais il y a des pays où en fait, produire, c'est une manière de découvrir un métier pour ensuite s'orienter vers telle ou telle formation professionnelle, ou c'est une manière de réinsérer socialement les personnes en les remettant en activité, en les faisant se lever le matin, enfin, etc. Vous voyez, les buts poursuivis peuvent être extrêmement divers, en fait. Sur les débouchés visés par ces écoles, il peut y avoir donc une insertion ou une réinsertion professionnelle, souvent vers l'emploi, une réinsertion scolaire, vers la formation professionnelle, avec une dimension de certification qui peut être totale, par exemple le passage du CAP en France, ou partielle, avec des espèces de livrets de compétences où on certifie qu'on a un certain nombre et ensuite on va compléter ces compétences avec d'autres formations. Et puis bien cette réinsertion sociale avec l'insertion du handicap par le travail et puis le retour aussi à la société des gens qui sortent de suivi pour addiction, choses comme ça. En Allemagne, par exemple, quand on lit les documents, on voit qu'il y a une espèce de dimension de valeur démocratique à transmettre. Le troisième point, c'est une forte insistance sur tout ce qui est développement personnel. Alors ça, là aussi, ça varie ce qu'ils entendent par développement personnel. Ça peut aller de compétences transversales sociales à vraiment un accompagnement avec des professionnels qui peut être psychologique ou par des éducateurs ou un mieux-être social, un mieux-être en société, etc. Et enfin, les conditions d'accès vont varier beaucoup aussi. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, il n'y a pas de restrictions. Vous avez envie d'entrer dans une école de production, si vous êtes dans les critères d'âge, vous pouvez postuler. Il y a des pays où on ne peut rentrer en école de production que sur prescription par les organismes, les services de recherche d'emploi, par exemple, des choses comme ça. Parce que dans ces cas-là, souvent, ça va conditionner le versement d'indemnités. En France, il n'y a pas d'indemnité pour les élèves en école de production. Ils produisent, un peu comme pourrait le faire, d'une certaine manière, un apprenti en entreprise, mais ils n'ont aucun salaire. Ce qui peut poser parfois aussi question chez les jeunes. Voilà. Donc vous voyez qu'en fait, on a un modèle qui existe au sens où il y a une espèce de production pour clients, et c'est ça qui fédère un peu ces différentes écoles. Mais au final, les buts, les moyens sont assez différents. Et donc, ça pose vraiment question, en fait. Il y a un procédé commun peut-être, mais un modèle unique, je pense que certainement pas. Il ne faut pas croire qu'en France, le modèle est complètement fédéré, encadré. Là aussi, on peut observer des variations, ce qui nous amène au troisième point. Alors, je suis repartie en fait de cette notion de forme scolaire telle qu'elle a été présentée et présentée par Guy Vincent dans les années 80 et puis ensuite 94. Donc j'ai repris les points principaux, si vous voulez. Et en fait, le modèle des écoles de production se pose vraiment en contre. C'est-à-dire que à l'espace de l'école comme un espace spécifique, séparé de la cité d'une certaine manière économique, l'école de production oppose une école-atelier qui est complètement insérée dans le monde économique puisque elle réalise des commandes, elle doit se placer sur un marché, elle doit avoir des fournisseurs, elle ne doit pas faire de concurrence déloyale, donc elle doit trouver sa place, faire intervenir l'extérieur, etc. Les jeunes sont au contact des fournisseurs, des clients, enfin, il y a vraiment cette volonté de se positionner comme sur quelque chose de différent en termes d'espace. Il y a la question du temps. Les écoles de production présentent leur organisation en termes de calendrier comme quelque chose qui est dicté, imposé par la production. La production impose un standard de commande selon le type de métier auquel on appartient, les temporalités ne sont pas les mêmes et les jeunes doivent rentrer dans ce système. Le problème, et là on le verra plus tard, c'est que quand on veut à la fois préparer au CAP et répondre aux exigences de la production, il y a des calendriers qui se télescopent. Comment les écoles font-elles pour, répondre à ces différentes exigences ? Ensuite, sur la question de la relation pédagogique, on y répond par une dimension un peu de compagnonnage. Sur la dimension impersonnelle, on y oppose plutôt ce que nous, on parle plutôt de cité domestique, en référence à Botanski et Thévenot, avec une notion de proximité très proche, d'accompagnement, etc. Et puis sur l'usage de l'exercice, l'exercice qui ne servirait qu'à produire une forme qui n'a pas de qui ne produit pas quelque chose qu'on peut garder ensuite. Les écoles de production, bien sûr, opposent la production réelle. C'est ce qui donne tout le sens. Pour le jeune, c'est plus facile de s'identifier, de trouver sa place parce qu'il produit quelque chose qui sert. On a beaucoup ça dans les entretiens, d'ailleurs, par opposition à l'exercice poubelle où l'objet finit ensuite en déchetterie, n'est réalisé que pour apprendre un geste et donc ne sert à rien. Alors, dans un essai un peu de typologie, les écoles, on peut les classer dans trois sous-groupes. Il y a d'abord les écoles qu'on pourrait appeler historiques. C'est-à-dire ce sont les plus anciennes, celles qui ont été créées par le père Boisard et puis par les pères ensuite, qui sont réellement dépositaires d'un héritage, qui le revendiquent. Alors ces écoles, elles sont majoritairement dans la région lyonnaise et dans la région Rhône-Alpes, au sens un peu plus large. Ce sont souvent des établissements autonomes, c'est-à-dire en école de production, vous pouvez trouver un peu deux types de configurations. Vous avez les écoles autonomes, ce sont des écoles qui sont régies par un statut associatif. Donc c'est une école entreprise, souvent il y a un métier, une section pour un lieu, une école spécifique. Mais par exemple, vous allez usinage, c'est vraiment un atelier d'usinage, ou mécanique, c'est presque un garage, etc. Et puis des écoles qu'on pourrait décrire comme adossées à une structure ou intégrées à une structure. En fait, elles prennent part dans un établissement déjà constitué, par exemple un lycée professionnel, et en fait, elles deviennent une sous-section d'un lycée. Donc, les écoles historiques, souvent, elles sont autonomes. Les écoles, il y a un deuxième modèle qu'on pourrait appeler les écoles engagées, qui sont aussi des structures autonomes, mais qui sont plus récentes. C'est un peu la deuxième vague des écoles, celles qui ont été créées ensuite, après qu'on soit passé sous une gouvernance laïque. Souvent, ce sont des porteurs de projets qui sont issus de l'humanitaire, qui ont un très fort engagement social et qui sont soutenus par d'autres structures qui ont aussi ce type d'engagement. Et puis enfin, des écoles dites intégrées. Donc là, ça fait référence à ce que je vous disais, ce sont des écoles qui sont intégrées dans une autre structure. Et on peut se poser la question, en fait, de la dimension opportuniste de cette intégration par les structures qui les intègrent. S'agit-il seulement de fournir une solution à des jeunes qui ne s'y retrouveraient pas dans les autres sections, ou d'afficher un peu une dimension sociale en fait à l'extérieur. Ce type d'école intégrée, on y observe aussi souvent une tension entre la structure d'accueil et ses volontés, ses politiques, etc., et la section école de production, dont les acteurs internes n'ont pas forcément les mêmes buts. Alors, pour vous donner un exemple, par exemple, d'une école historique, donc c'est une très vieille école qui a été créée, enfin très vieille à l'échelle des écoles de production, en 1950 par deux pères. C'est donc une école privée, aujourd'hui et donc hors contrat, qui prépare un CAP conducteur d'installation de production, un bac pro technicien d'usinage, et qui propose un CQP. Le CQP peut être notamment utilisé parce qu'il peut y avoir un tas de publics différents pour les écoles de production, notamment tout ce qui est mineur non accompagné, dont la maîtrise du français est parfois compliquée. Donc on utilise un peu le titre pro ou le CQP parce que la maîtrise de la langue est moins nécessaire. Ou pour des jeunes qui sont en très grande difficulté aussi et pour lesquels le diplôme peut être compliqué. Aujourd'hui, ils ont 47 élèves. Il faut savoir que ce type de structure, c'est la norme un peu en école de production. Ce sont des petites structures. On n'a pas tant d'élèves que ça. Et l'encadrement est en général, pour les anciennes écoles, de 1 pour 10 élèves. Donc là, on a 5 MP, c'est pour maître professionnel, 5 maîtres pro pour 47 élèves sur les chiffres de 2017-2018. Ce qui représente, avec, si on compte aussi les personnes qui interviennent pour tout ce qui est administratif, etc., 7 salariés à temps plein. Les salariés à temps partiel et les bénévoles, en général, c'est plutôt pour toute la partie académique, c'est-à-dire français, histoire géo, maths, etc. Sur leur budget, vous voyez qu'on est sur une école de production qui a une part haute sur la production puisqu'on est à 40%, et puis ensuite c'est taxes d'apprentissage sur 35% et des subventions sur 23%. Cet équilibre budgétaire, il est très important parce que il est revendiqué par la fédération des écoles de production comme une référence, c'est-à-dire que plus la part de la production est élevée dans le budget d'école, plus c'est que c'est une bonne école de production, et plus la part est petite, et plus c'est une école qui finalement est plus école qu'entreprise. Donc ce modèle historique, si on doit le synthétiser, c'est une continuité qui est très assumée en fait, avec la dimension historique originelle des écoles de production, et une très forte logique métier. Dans ces écoles, quand on rentre dans l'école, on rentre vraiment dans l'atelier. Les salles de classe, on ne les voit quasiment pas, en fait. On est on est tout de suite au cœur du métier. Il y a une volonté d'ailleurs, quand on parle avec les maîtres pros, de tout de suite montrer le métier, les machines, les dernières choses qui ont été achetées, la manière de produire, l'excellence. Enfin, c'est vraiment très fort. Ensuite, on a une socialisation qui est vraiment très appuyée sur les principes de la société domestique, avec dans le discours et puis une manière de parler des élèves, de la proximité avec eux, de connaître leurs problématiques, etc. Il faut savoir aussi que dans cette école que je vous ai présentée juste avant, là, les formateurs sont d'anciens élèves, à l'exception d'un seul. Donc il y a le directeur et lui-même un ancien élève aussi. Vraiment une volonté de perpétuer cette tradition en intégrant des gens qui peuvent le faire. Et puis, ça s'insère forcément dans un réseau local très fort. Ils sont très liés avec les institutions scolaires publiques et privées, avec l'environnement économique, avec les pouvoirs publics, etc. Ils sont soutenus par la région. Enfin, ils ont vraiment développé un réseau autour d'eux qui soutient l'école, en fait. Finalement, ces historiques, elles apparaissent comme exemplaires au sein du modèle, parce que sur la dimension de l'école atelier, elles ont vraiment réussi à en faire quelque chose qui soit de l'ordre de l'entreprise et de la production. Elles ont un calendrier qui s'adapte fortement à la production. Elles sont bien dans la cité domestique, dans l'apprendre par la production réelle, etc. On va voir que sur les deux autres modèles, engagés et intégrés, il y a des variations. Alors du coup, là aussi, je vais partir sur un exemple. Une des écoles engagées, qu'on va appeler Azalé, elle prépare deux CAP, service et cuisine. Donc c'est un restaurant. Ils ont 32 élèves, ça varie un peu, parce que là aussi, les entrées et sorties peuvent se faire plus ou moins au fil de l'eau, s'il y a des réorientations, etc. Donc en gros, l'idée, c'est 8 par année, par spécialité, donc 8 en CAP1, 8 en CAP2 sur les deux CAP, pour 5 maîtres pro. Vous voyez là, l'encadrement est plus fort finalement par rapport au nombre d'élèves, plus des bénévoles, des temps partiels. Ils utilisent aussi un service civique pour tout ce qui est accompagnement un peu vie scolaire. Ils peuvent intégrer d'autres types de stagiaires sur l'année. Leur budget, par contre, lui, il est très axé production. Ils sont à 70%. Et ils ont développé donc plusieurs sites de production pour assurer des rentrées. Ils ont à la fois ce restaurant, et puis ils travaillent aussi pour une cafétéria au sein d'un établissement d'enseignement supérieur et dans un food truck. La notion d'engagement dans cet établissement, il est à la fois du côté de la structure qui est construite et la structure d'accompagnement qui est derrière, et puis au niveau des personnels. C'est-à-dire qu'ils sont soutenus par une structure qui s'appelle l'Union pour l'enfance, qui a elle aussi cette dimension d'engagement. Ils ont un investissement aussi sur tout ce qui est psycho-éducation, parce que la directrice a des intérêts, et donc elle réinvestit des dimensions psychologiques dans son accompagnement. Une dimension aussi d'insertion des publics en difficulté. Ils bénéficient de soutiens locaux de la région et puis aussi du mine, du marché d'intérêt national, parce qu'ils sont hébergés dans un mine. Enfin, ils s'inscrivent dans leur discours dans la lutte contre le décrochage scolaire. Et ils ont cette dimension un peu humaniste. On ne vise pas que à insérer des jeunes par l'obtention d'un diplôme, mais aussi on veut en faire des citoyens. Donc il y a une dimension en fait là de la cité civique qui interfère avec par exemple le fait de donner des cours de philosophie. C'est vraiment pour eux l'idée de développer cette pensée personnelle chez les jeunes. Donc ce modèle engagé, il a vraiment une très forte dimension humaniste, avec cette idée aussi d'un leader charismatique qui est le directeur, qui porte un peu l'école, qui l'engage dans cette dimension un peu d'engagement fort social. Ça se voit aussi par le fait de recruter des publics assez divers, mais qui tous ont un peu cette étiquette d'être un peu défavorisé, avec donc les mineurs non accompagnés, tous les élèves 10, qu'on ne sait pas vraiment toujours bien qualifiés d'ailleurs, mais on sait qu'on en a plein, des jeunes qui sont intéressés par la PJJ, par les PSAD. Enfin, vous voyez, ils essayent de brasser vraiment assez large sur ce type de public. Ce qui n'est pas sans parfois poser question aussi sur l'accompagnement pédagogique au quotidien. Parce que comment des acteurs qui ne sont pas forcément formés font pour adapter leurs cours pour ces différents publics. Vous voyez, il y a tout un travail là-dessus. Et puis, il y a une tension parfois entre ce qu'on voudrait obtenir et puis ce qu'on fait en réalité. C'est-à-dire, on vise une insertion professionnelle qui soit dans un cadre très professionnalisant. En même temps, le milieu scolaire, il tire aussi parce que c'est les références que chacun a de son propre vécu scolaire, sa propre formation, etc. On a un peu, et puis on a cette volonté d'avoir une démarche soit plus civique, Et pour autant, on est rattrapé par une réalité domestique parce que bah, y a ces jeunes qui sont en difficulté, puis on s'y reconnaît parce que nous aussi, finalement, en tant que maître pro, on peut se raconter dans cette difficulté par rapport à l'institution scolaire où on ne s'y est pas retrouvé et qu'on est content de proposer un autre modèle à ces jeunes. Enfin bref, il y a tout cet aller-retour. Donc dans ces modèles un peu engagés, il y a cette recherche d'équilibre un peu... on tire vers l'école, c'est-à-dire qu'ils ont moins d'arguments pour négocier vis-à-vis du rectorat, par exemple. Et donc, ils se voient imposer des périodes de stage à l'extérieur, ce que n'ont pas, par exemple, les historiques. Donc, bah, du coup, il faut rentrer dans des conventions aussi qui ne sont pas celles du modèle originel. Le calendrier, il est plus ou moins adapté à la production, mais en même temps, il y a ces exigences de stage qui y interfèrent. Mais par contre, ils restent dans la production réelle. C'est-à-dire qu'ils arrivent quand même à apprendre le métier via la production. Vous allez voir que le dernier modèle, le modèle des intégrés, c'est là où cette partie-là va rentrer en question. Donc sur les écoles intégrées, l'exemple que je vous présente là, c'est un gros groupe, c'est de l'enseignement professionnel agricole. Ils ont un lycée professionnel, mais en fait, ils ont trois associations qui chapeautent. Ils chapeautent à la fois le lycée professionnel agricole, une partie hébergement qui héberge en fait les jeunes et les étudiants du lycée et de toute la structure, parce qu'il n'y a pas qu'un lycée professionnel. Et puis une dimension plus loisir avec une piscine, un truc de soins et bien-être, etc. Donc c'est une structure qui est assez globale quand même. Donc c'est un lycée agricole sous contrat de l'enseignement catholique et l'école de production est intégrée depuis 2013 seulement. Elle propose trois formations diplômantes au niveau CAP, ouvrier paysagiste, agent polyvalent de la restauration et puis agent de maintenance des bâtiments. Bon, il n'y a pas de frais de scolarité. Ils sont dans les vacances scolaires, ce qui n'est pas le cas des deux autres modèles. Ils sont libérés le mercredi après-midi parce que c'est la modalité du lycée. Et puis parce que les bus qui desservent le lycée font qu'il y a une espèce de contrainte, en fait. Il n'y a pas de bus le mercredi soir, donc il faut arrêter à midi, etc. À l'intérieur de l'école même de production, ils les ont classés par groupe de niveau pour les matières générales. Et ce qui pose parfois problème sur la production parce que ce n'est pas si facile de produire aussi avec des élèves qui sont classés par niveau. Enfin, il y a une espèce de conflit, mais donc ils essayent de trouver un... Ils ont 28 élèves, 3 maîtres professionnels, mais ils en cherchent un quatrième. Et pour la partie cuisine, en fait, c'est pas assuré par des maîtres pros, c'est assuré par la société à laquelle ils délèguent la restauration, qui est une société privée extérieure. Donc on n'est pas vraiment sur l'accompagnement de maîtres professionnels, on est plus sur une espèce d'alternance, en fait. Hein, c'est une espèce d'hybridation qui... Bon. Donc ce modèle, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'école, elle bénéficie des avantages de la structure d'accueil. C'est-à-dire qu'elle va bénéficier de l'internat, de la restauration, de la vie scolaire, des éducateurs spécialisés, de l'animation, etc., des services de bus. Donc un ensemble d'atouts que n'ont pas les écoles de production en général. Et puis d'un soutien financier. C'est plus facile d'obtenir des taxes d'apprentissage via une grosse structure que pour une petite, etc. Mais à l'inverse, les jeunes, en fait, vont assurer la maintenance et l'entretien de tous les sites du groupe. En termes d'entretien des bâtiments et de paysagisme. Et en fait, les jeunes, pour l'instant, travaillent uniquement dans ce groupe. Donc, il n'y a pas de relation avec des clients extérieurs. Et ce qui fait que la relation aussi au métier, elle est complètement différente. Donc, ce manque d'indépendance fait qu'il est très difficile, en fait, de maintenir la logique métier. Et ça atténue fortement, en fait, la rupture entre le monde scolaire et le monde professionnel. Avec des jeunes, finalement, qui disent que s'ils oublient la moitié des outils, c'est pas très grave, il suffit de traverser la cour pour aller les chercher. Donc c'est pas, finalement, bon, c'est pas un drame, quoi. Donc sur la dimension entre l'école et l'atelier, pour le coup, ils ont vraiment du mal à trouver leur bille. Le calendrier est beaucoup plus adapté à la formation qu'à la production. Sur la dimension compagnonnage, bon... Je trouve que dans la partie professionnelle, dans les entretiens et les observations qu'on a faites, on s'y retrouve. Mais sur la partie plus matière générale, c'est quand même assez... ça peut se discuter, on va dire. Et enfin, sur l'apprentissage par la production réelle, là, dans l'exemple que je vous ai présenté spécifiquement, ils y arrivent à peu près. Mais on a d'autres exemples d'écoles intégrées où ils n'ont pas assez de production et finalement, ils apprennent sur des pièces pédagogiques. Donc on est finalement sur un entre-deux aussi. Pour conclure, donc il n'y a pas vraiment, il y a un modèle idéal de l'école de production qui est défendu, mais la réalité, elle est assez hétérogène. Et donc, sur la forme scolaire, il y a une volonté de s'en écarter, et en même temps, il y a des degrés de remise en cause qui sont quand même variables, et c'est pas si facile, on le voit bien, entre la volonté institutionnelle et puis les acteurs de négocier en fait cette remise en cause. Et puis bien sûr, il y a des, bon, j'en ai pas forcément parlé là, mais des tensions au sein du modèle, parce que comment former quand on doit produire en même temps et qu'on a des exigences de budget à tenir, Il y a, pour les maîtres professionnels, c'est pas si facile. Et il y a d'autres types de tensions comme ça qu'on va retrouver et qui posent question aussi. Néanmoins, dans les chiffres qu'on a pu récupérer, en tout cas sur le projet, là, la plupart des jeunes arrivent à passer leur CAP, à l'obtenir. Donc le modèle de formation en soi, a priori, il fonctionne de ce point de vue-là. Et il y a des exemples de réussite de jeunes qui, soit n'ont pas reçu leur CAP, mais ensuite retournent en formation en alternance, soit poursuivent après le CAP en alternance pour du bac pro ou autre chose. En général, ils ne retournent pas vers la voie générale, ils vont sur l'alternance. Et voilà, donc il y a un certain nombre de questions. Et je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai...